Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 1er septembre 2021, au micro Jean-Roger Guillon. Bonsoir à tous, à la une de nos informations. Au Nigeria, quatre États imposent des restrictions pour enrayer la criminalité. Tanzanie, le tribunal se déclare compétent à juger l'opposant Freeman Mbowe pour terrorisme. Vague d'indignation en Côte d'Ivoire après une émission de télé. L'animateur et la chaîne sont accusés de faire l'apologie du viol. Afghanistan, au lendemain du discours du président Joe Biden, les talibans font une grande parade à Kandahar, la seconde ville du pays. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Les autorités nigérianes face à la question sécuritaire, les gouvernements de quatre pays du nord et du centre du Nigeria ont imposé une série de restrictions afin de mettre un terme aux enlèvements de masse et aux violences qui se multiplient dans ces régions. Abdourahman Dia.
Les marchés hebdomadaires de bétail sont suspendus dans l'État du Niger à partir de ce mercredi, annonce du porte-parole du gouvernement local Ahmed Matane dans un communiqué. Autre mesure, la vente d'essence est plafonnée et l'utilisation de jerrycans aux stations-service est interdite. Le transport de plus de deux personnes sur une moto est désormais illégal, a-t-il ajouté, et le transport de bétail par camion vers d'autres régions du pays est limité. Un couvre-feu nocturne pour les mototaxis et les petits taxis jaunes à trois roues a également été décrété dans plusieurs endroits. Des mesures similaires ont été annoncées ces derniers jours dans les États voisins de Katsina, Kaduna et Zamfara. À Kaduna, les autorités ont par ailleurs interdit la coupe d'arbres dans certains endroits. Cette activité est représentant l'une des sources de financement notoires des bandes criminelles. Des groupes armés sévissent depuis des années dans les zones rurales où ils mènent attaques, pillages et enlèvements de masse. Mais les incidents ont redoublé depuis le début de l'année, suscitant de vives critiques contre les autorités incapables de ramener l'ordre.
Au Mali, le doute grandit sur les intentions des militaires à 6 mois des échéances électorales. Les militaires au pouvoir depuis le putsch d'août 2020 ont répété qu'ils s'en tiennent au calendrier de transition annoncé en avril qui prévoit un référendum le 31 octobre, des élections régionales et locales le 26 décembre, puis le premier tour de la présidentielle et des législatives le 27 février 2022. La communauté internationale juge un rétablissement de l'ordre constitutionnel indispensable pour sortir de la profonde crise dans laquelle s'enfonce depuis des années le Mali. En Côte d'Ivoire, des femmes ont manifesté devant le siège de la télévision NCI. Lors d'une émission, un homme condamné pour viol avait expliqué en détail comment il abusait de ses victimes, ce qui a provoqué une indignation dans le pays. Claire Morin-Gibourg.
Non à la banalisation du viol à la télévision. C'est le message que les protestataires ont répété lors de leur rassemblement devant la NCI. Le rassemblement a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux où depuis 48 heures, internautes et victimes de viols ne décolèrent pas. Une pétition de la Ligue ivoirienne des droits des femmes a déjà récolté plus de 46 000 signatures. Lundi, à une heure de grande écoute, l'animateur Yves de Mbella a choisi d'inviter un ancien violeur dans son émission qui était censée dénoncer le viol. La Haute Autorité de Communication Audiovisuelle a suspendu Yves de Mbella pendant 30 jours. Il a en outre été décidé par le comité d'organisation du concours de Miss Côte d'Ivoire qui a lieu samedi qu'il n'animerait pas la soirée comme initialement prévu. Ces sanctions ne sont pas suffisantes, d'après Bénédicte Johan, présidente d'une association d'aide aux victimes de viol. Selon elle, bien qu'il ait demandé pardon, Yves de Mbello ne devrait plus apparaître sur les télévisions du pays.
Au Libéria, le vice-président de la commission anticorruption, Kano Baïgbala, son nom a été cité dans une enquête sur le directeur du port de Bukanan, troisième ville du Libéria. Ce dernier est accusé d'avoir détourné plusieurs centaines de milliers de dollars américains. Aucune connexion directe n'a pu être établie, mais les médias libériens estiment que c'est peut-être à cause de conflits entre le directeur du port et son autorité de tutelle. En RDC, 3 personnes ont été tuées ce mercredi et 10 de véhicules incendiés sur la route nationale 4 par de présumés rebelles des forces démocratiques alliées en Ituri. Le convoi a été escorté par les casques bleus de la mission de l'ONU en RDC et l'armée nationale, a déclaré Dieudonné Malangai, un responsable de la société civile locale. En Tanzanie, le tribunal de Dar es Salaam, qui juge le dirigeant du principal parti d'opposition pour terrorisme, s'est déclaré compétent aujourd'hui pour mener le procès. La Cour a rejeté une objection formulée la veille par les avocats de la défense. Eric Manirakiza.
Ce tribunal est compétent pour juger des affaires de terrorisme, a déclaré la juge Elinaza Louvanda après lecture des arguments de chacune des parties. Mardi, l'avocat de la défense Pita Kitabala a fait valoir que la division de la corruption et des crimes économiques de la haute cour de Dar es Salaam n'avait aucune compétence pour juger une affaire de terrorisme. Selon le parti Chadema, Freeman Mbowe est accusé d'avoir planifié une attaque contre un fonctionnaire et d'avoir donné près de 220 euros en vue notamment de l'organisation d'attentats contre des stations-service et des rassemblements publics. Il a été arrêté avec d'autres responsables du parti Chadema le 21 juillet à Mwanza, où il avait appelé à un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles. Emprisonné depuis, M. Mbowe affirme avoir été torturé en détention et avoir enregistré des déclarations sous la contrainte. Les partisans de Freeman Mbowe qualifient ce procès de politique et dénoncent une dérive autoritaire de la présidente Samia Sulu Hassan.
Le Maroc se prépare aux élections législatives et locales du 8 septembre, un scrutin avec un enjeu limité par la faible marge de décision des élus, mais dont dépendra l'avenir du parti islamiste au gouvernement. Le parti de la justice et du développement a fait le pari de remporter les législatives pour la troisième fois depuis son arrivée aux affaires en 2011 dans le contexte du printemps arabe. Au Maroc, les décisions et les orientations majeures dans des secteurs importants continue d'émaner du roi Mohamed VI. La France a appelé aujourd'hui l'ensemble des dirigeants libyens à prendre leurs responsabilités pour faire respecter le calendrier des élections générales, dont certains responsables locaux n'excluent plus le report. La tenue des élections législatives et présidentielles le 24 décembre 2021 est essentielle à la stabilité et à la réconciliation politique en Libye. Nous appelons l'ensemble des dirigeants libyens à prendre sans délai leurs responsabilités pour mener à bien ce processus, a déclaré un porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Après avoir célébré le départ américain, les talibans commencent aujourd'hui à s'atteler à une tâche gigantesque, celle de gouverner l'Afghanistan. Le point avec Jacques Aristide.
Les talibans se sont dit déterminés à former un gouvernement inclusif. De nombreux Afghans et dirigeants étrangers craignent toutefois un retour en arrière sur les droits humains, notamment pour les femmes qui ont accédé à l'éducation, sont entrées en politique ou dans les médias. Reporters sans frontières indique que sur les 700 journalistes afghans en poste en 2020, moins d'une centaine exercent leur métier aujourd'hui. La communauté internationale exige également des talibans qu'ils ne laissent pas le pays redevenir un sanctuaire du terrorisme. Ils doivent aussi trouver un terrain d'entente avec les quelques pays comme les États-Unis et le Royaume-Uni qui ont encore des ressortissants en Afghanistan et envisagent de faire partir ceux qui le souhaitent. Hier, le président américain Joe Biden a encore défendu avec âpreté le retrait final de l'armée américaine. Je suis convaincu que c'est la bonne décision, une sage décision et la meilleure décision pour l'Amérique, a-t-il déclaré. Joe Biden est très critiqué dans son pays, nombre de ses concitoyens se demandant à quoi aura finalement servi l'engagement pendant 20 ans en Afghanistan.
Pour la première fois depuis la guerre entre Israël et Gaza, l'État hébreu a rouvert aujourd'hui le point de passage de Kerem Shalom et étendu la zone de pêche dans l'enclave palestinienne sous contrôle du Hamas. Israël avait fermé Kerem Shalom, seul point de passage israélien, pour les marchandises vers la bande de Gaza lors de la guerre de 11 jours, l'opposant en main au Hamas pour le rouvrir progressivement après les affrontements meurtriers. Idem pour la zone de pêche de ce territoire enclavé de 2 millions d'habitants sous blocus israélien depuis 2007. Un nouvel accord de trêve est entré en vigueur ce mercredi entre le régime syrien et des rebelles dans la province méridionale de Deraa, théâtre ces dernières semaines d'affrontements inédits. Fin juillet, de violents affrontements ont éclaté entre les deux camps alors que le régime tente de reconquérir la région. Des pourparlers parrainés par Moscou tentent depuis de mettre fin aux violences dans la région. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient demander aujourd'hui à Joe Biden son ferme soutien à la Russie au moment où le retrait désordonné d'Afghanistan a suscité une onde de choc parmi tous les pays qui, comme le sien, ont tout misé sur le soutien militaire américain. Cette visite prévue de longue date était initialement programmée lundi avant d'être repoussée à mardi puis à aujourd'hui. Ici aux États-Unis, les habitants du sud de la Louisiane se préparent à être privés d'électricité et d'accès en eau potable pendant un mois après le passage de l'ouragan Ida qui a balayé dimanche l'État du sud des États-Unis. Le coût économique de l'ouragan pourrait représenter 70 à 80 milliards de dollars, une grande partie des pertes étant due à l'impact sur le secteur pétrolier et au retard provoqué sur la chaîne d'approvisionnement. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Claire Morin-Gibou.
Au Gabon, les opérateurs des secteurs de l'agriculture, de l'habitat social, du tourisme, du bois et du ciment sont assujettis à un nouveau régime d'exonération fiscale à partir d'aujourd'hui. Ils sont passés à un régime d'exonération partielle au taux réduit de 5%. La loi des finances 2021 prévoit des recettes fiscales de plus de 1440 milliards de francs CFA, soit une hausse de 24% et des droits de douane de près de 335 milliards, une progression de 27%. Une autre mesure fiscale entre en vigueur également aujourd'hui au Sénégal, où la DGID a institué un prélèvement de conformité fiscale au taux de 12% sur les importations effectuées par les importateurs qui ne souscrivent pas régulièrement leurs obligations de déclaration ou de paiement d'impôts et taxes. L'agence Avance Média a publié le top 100 des Africaines les plus influentes, dans lequel figure la première ministre togolaise, Victoire Toméga Dogbé. Les nominés sont répartis en 8 catégories, dont le leadership économique, les médias et la gouvernance.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous, nous commençons par le sport roi, les matchs de la première journée. Les éliminatoires du Mondial à Qatar 2022, zone Afrique, ont débuté aujourd'hui. 40 sélections africaines sont en lice pour décrocher l'une des 5 places qualificatives réservées à l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022. Les résultats des premiers matchs sont tombés, match nul 1-1 entre la Centrafrique et le Cap-Vert. À suivre aussi ce soir, Guinée-Bissau-Guinée, le Sénégal joue le Togo, la Libye reçoit le Gabon. Le Mali joue le Rwanda et l'Égypte joue l'Angola à domicile. Cette première journée des éliminatoires du Mondial 2022 se poursuit demain jeudi. 7 matchs au programme, entre autres, la République démocratique du Congo reçoit la Tanzanie à Lubumbashi. À suivre aussi Namibie-Congo, Madagascar-Bénin ou encore Burkina Faso-Niger à Marrakech au Maroc. Les Burkinabés ne disposant pas de stade aux normes FIFA pour accueillir leurs adversaires. L'Algérie joue Djibouti, le Maroc reçoit le Soudan. Balle au panier à présent, le Sénégal est le premier qualifié pour les demi-finales de l'Afrobasket qui se joue à Kigali au Rwanda. Les Sénégalais ont battu l'Angola 79 à 74 et retrouvent donc le dernier carré de cette compétition où ils font un sans faute jusqu'ici. On connaîtra le deuxième qualifié pour les demi-finales à l'issue du deuxième quart de finale entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Demain jeudi, dans les deux derniers matchs des quarts de finale, le Cap-Vert sera opposé à l'Ouganda et la Tunisie jouera le Soudan du Sud. Transfert en Europe, le mercato estival s'est refermé hier dans la plupart des championnats. Pour les joueurs africains, Naples a officialisé l'arrivée de l'international camerounais Franck Zambo-Anguissa, prêté par Fulham avec option d'achat. Le milieu défensif camerounais de Lille, Junior Onana, a lui rejoint Bordeaux pour un contrat de 5 ans. Le joueur de 21 ans a fait ses débuts internationaux en octobre 2020 et a passé la saison dernière en prêt à l'équipe belge de Mouscron. Et puis, le feuilleton Kylian Mbappé a tenu en haleine les fans jusqu'aux dernières heures du mercato, mais les offres du Real Madrid, 160 millions d'euros puis 180 millions, bonus inclus, n'ont pas fait fléchir les dirigeants parisiens qui conservent donc leur star en fin de contrat en juin prochain. Par contre, les Merengues se sont offerts une autre pépite française, le milieu de terrain international Eduardo Camavinga, 18 ans, qui quitte Rennes pour rejoindre le Real Madrid jusqu'en 2027. Autre mouvement inattendu, le Français Antoine Griezmann retourne à l'Atlético Madrid après 2 saisons au FC Barcelone, qu'il a prêté avec option d'achat. Le meneur des Bleus retrouve ainsi le club où il a explosé et dont il a porté le maillot de 2014 à 2019.
Page de sport signée Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la ville de Goma, capitale de la province du Nord Kivu, la criminalité a augmenté de façon spectaculaire ces derniers jours. Après la fusillade qui a fait un mort et 7 blessés lundi soir à Katoï, dans la commune de Karizimbi, un autre vendeur de cartes d'unité échangeur de monnaie a été tué hier nuit en plein centre-ville. Cette situation inquiète beaucoup les habitants qui craignent le pire si les autorités ne prennent pas rapidement des mesures appropriées pour mettre fin à l'insécurité. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Zanem Neti Zaidi, notre correspondant à Goma.
Tout au long de la journée, les curieux ont afflué aux alentours de l'artère où s'est déroulée la récente scène d'assassinat dans la soirée. La victime de l'assassinat était un jeune vendeur qui faisait ses affaires dans ses kiosques. Le témoin oculaire, comme ses taximans moto, dénonce l'inefficacité de certains agents des forces de l'ordre qui étaient présents près du lieu du drame.
La victime avait déjà fini son travail et voulait rentrer chez lui. Quand il a voulu monter sur une moto, les assaillants lui ont tiré une première fois. Et quand il a voulu s'enfuir, ils lui ont tiré une deuxième fois devant la clôture. Lorsque les assaillants opéraient, il y avait des policiers qui assurent la sécurité de certaines maisons commerciales non loin d'ici. Mais ils n'ont rien fait. Ils devraient poursuivre ces assaillants et finalement les arrêter.
Au domicile de la victime, c'est la tristesse et la désolation. Le jeune frère de la victime partage sa douleur d'assister au décès inattendu de son frère avec qui il avait passé la nuit précédente et qu'il avait accompagné au travail le matin. Il plaide pour un renforcement de la sécurité.
Lorsque nous avons appris cette nouvelle, nous avons été très surpris. La personne était en bonne santé. Il est difficile d'accepter qu'elle soit vraiment morte. Nous demandons aux autorités en charge de la sécurité à Goma de mieux sécuriser la population. Les gens meurent tous les jours alors que nous sommes en état de siège, période pendant laquelle nous devrions être en sécurité. Tuer des gens en pleine ville ne donne pas du tout une bonne image.
Les autorités locales ont pris des décisions pour arrêter l'hémorragie de l'insécurité à Goma. Par exemple, le maire de Goma, le commissaire principal Kabea Makosa, a interdit aux mototaxis de circuler après 19h dans toute la ville.
J'avais procédé par faire un communiqué officiel pour dire que les motos, les taxis motos et même des privés, le 4 septembre, à partir de 19h30, on ne veut plus voir circuler une moto à travers la ville. Rien. C'est pour la sécurité de nos populations.
La veille de la mort de ces jeunes vendeurs, une autre fusillade a été signalée, faisant un mort et 7 blessés à Katoï, dans la commune de Karisimbi, dans la ville de Goma. Zanem Neti Zaidi, pour VOA Afrique, Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Au Congo-Brazzaville voisin, la crise de carburant dans les stations-service provoque la désorganisation du transport en commun. Les bus et les taxis ne respectent plus les itinéraires officiels et les prix ne sont plus appliqués. Les usagers doivent débourser plus d'argent, tandis que les chauffeurs de taxi veillent dans les stations pour espérer avoir de l'essence. Le reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
À Brazzaville, en l'absence des bus publics de la STPU, les privés en profitent, la languissante pénurie de carburant aidant. Dans les arrêts de bus, la foule ne décolère pas.
Tous ces gens-là, ces bandits-là, les taximans et autres se comportent comme ça, c'est parce que l'État est faible. Pour descendre à Machua, vous payez Machua, rond-point Mongali, si vous êtes au centre-ville, c'est vraiment difficile.
C'est tout un problème. Le matin, je dois emprunter au moins 3 à 4 bus. Et ces 3 à 4 bus, on doit les discuter avec les autres, c'est-à-dire se battre pour avoir la place.
Depuis plus de 2 semaines, en effet, le sang coule à compte-gouttes dans les stations-service de Brazzaville. Les chauffeurs de taxi y passent les nuits, malgré le couvre-feu en vigueur dans le pays. Eux aussi disent ne pas comprendre une telle pénurie, dénonçant par ailleurs les manœuvres des pompistes.
Ça fait déjà une semaine de là que je ne travaille pas. Une semaine. Quand je viens à la station, oh non, il faut donner quelque chose. Mais que je vais vous donner là, je vais avoir ça où?
Il y a certains petits qui viennent là parce que ce sont leurs petits. Ils amènent les bidons, ils pompent, ils donnent quelque chose.
Mais nous sommes un pays producteur de pétrole. Nous voulons que les choses s'améliorent.
Les autorités s'expriment rarement à ce sujet. Le directeur général de la Société nationale du pétrole du Congo, Raoul Ominga, tente une explication, mais peu convaincante.
Nous ne communiquons pas sur ces pénuries pour des raisons stratégiques. Mais on peut dire que c'est avec un grand regret qu'il y ait eu cette pénurie. Mais nous avons déjà pris toutes les mesures possibles pour que cette pénurie s'éloigne de nous. Nous sommes là pour gérer la fourniture du carburant dans nos stations. On ne peut que s'excuser. Ça ne doit pas se répéter, mais ça arrive. Même dans les grands pays, ça arrive. On a fait peut-être 3 ans sans pénurie, je pense. Mais ça arrivé. On sait pourquoi, on connaît les raisons. On a pris le taureau par les cornes. On aurait pu édulcorer les choses, hein, aller toucher sur les socles stratégiques pour qu'il n'y ait pas la pénurie. Mais on a continué à travailler normalement parce que notre rôle, le but pour nous ici, c'est pas de masquer les situations, mais de les vivre et faire en sorte que les solutions qui sont trouvées soient les solutions pérennes.
Le Congo-Brazzaville est le 4e producteur du pétrole en Afrique noire avec plus de 350 000 barils par jour. Le pays dispose d'une raffinerie, la Coraf, pouvant produire jusqu'à 900 000 tonnes de carburant chaque année. Mais pourtant, désormais, on signale la même pénurie à Pointe-Noire, la ville pétrolière, jusqu'ici épargnée. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
En Guinée, les dortoirs ou les cités universitaires sont fermés et certains transformés en salles de classe depuis plusieurs années. Dans la capitale, certains étudiants venus de l'intérieur du pays sont obligés de faire de petits boulots pour faire face à la précarité. On fait le point avec Zakaria Kamara, notre correspondant en Guinée.
La plupart des étudiants venus des localités éloignées restent dans la capitale pendant les vacances pour préparer la rentrée. Certains, comme Faya, ont trouvé une activité génératrice de revenus.
Je suis obligé de faire ce métier de la coiffure pour pouvoir subvenir à mes besoins tels que mes brochures, tels que ma connexion, tels que pour payer ma maison, mon manger, pour aussi ma santé.
Dans la capitale, nombreux sont les étudiants qui partagent une situation de précarité. Mais chacun a une histoire particulière. Cette étudiante a choisi de vendre des tickets de loto.
Nous avons pris un appartement, moi et mes amis. Donc on cotise chaque fin du mois. Le peu qu'on gagne, on donne aux propriétaires. Je ne peux pas aller dans les mêmes villes comme ça, voir mes parents au village. Donc le peu que je gagne, je préfère les envoyer. L'année prochaine, quand je vais finir mes études, j'irai les voir.
Les étudiants guinéens jugent la bourse d'entretien mensuelle de 10 dollars insuffisante et pour joindre les deux bouts, Tambaka Mano a pris des risques.
J'ai une moto qui me permet aussi de subvenir à mes besoins en faisant du taxi. Mais bon, vous savez combien de fois on prend le risque. Piloter une moto dans la capitale, c'est un risque. Mais on est obligé de le faire parce qu'on n'a pas d'autres ressources.
Les dortoirs sont fermés en Guinée depuis près de 15 ans. Le gouvernement promet de construire des cités universitaires pour y loger des étudiants. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la fuite des cerveaux africains. Alors que le secteur de la santé est paralysé au Nigeria par une grève de plusieurs semaines, des centaines de médecins ont participé récemment à Abuja à un séminaire de recrutement organisé par l'Arabie Saoudite. Récemment, on évoquait cette réalité en Tunisie où les jeunes médecins aspirent à partir à cause des mauvaises conditions dans leur pays. Pourquoi l'Afrique n'arrive pas à retenir ces milliers de cadres qui quittent chaque année le continent où ils ont été formés? Nous allons en débattre ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Dans son adresse à la nation hier, le président Joe Biden a défendu le retrait des troupes américaines d'Afghanistan et les opérations d'évacuation à Kaboul de nombreux ressortissants des États-Unis et d'autres pays. La correspondante de la VO à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, revient sur son discours. Le récit est de Nathalie Barge.
Les talibans ont célébré dans les rues de Kaboul le retrait de l'armée américaine d'Afghanistan. Hier, le président Joe Biden a annoncé la fin de la plus longue guerre des États-Unis.
Je n'allais pas prolonger cette guerre pour toujours et je n'ai pas prolongé une sortie pour toujours.
Joe Biden a répété sa raison de mettre fin à la guerre en Afghanistan qui a duré 20 ans sous 4 présidents américains.
Nous sommes retrouvés avec une décision simple, soit donner suite à l'engagement pris par la dernière administration et quitter l'Afghanistan, soit dire que nous ne partions pas et engager des dizaines de milliers de soldats supplémentaires pour retourner à la guerre. C'était l'ultime choix entre partir ou intensifier.
Les attentats suicides perpétrés la semaine dernière par le groupe État islamique à l'aéroport de Kaboul, tuant plus de 150 civils afghans et 13 soldats américains, ont accentué les critiques sur le retrait d'Afghanistan. Certains analystes estiment qu'il était temps de mettre fin à la mission militaire. Charles Kopchan, membre du groupe de réflexion Council on Foreign Relations.
On the longer run, I think...
À plus long terme, je pense que le retrait ressemblera davantage à celui du Vietnam, un succès à court terme et à plus long terme en permettant de recentrer les priorités stratégiques, la politique étrangère américaine et l'investissement dans l'économie du pays plutôt qu'à l'étranger.
Lors de la période d'évacuation, de nombreux Afghans craignant le régime taliban se sont précipités vers l'aéroport de Kaboul dans l'espoir de pouvoir quitter le pays. Monsieur Biden a défendu l'opération.
Aucun pays n'a rien fait de tel dans toute l'histoire. Seuls les États-Unis avaient la capacité et la volonté de le faire. Nous l'avons fait aujourd'hui. Le succès extraordinaire de cette mission est dû à l'incroyable compétence, à la bravoure, au courage et à l'abnégation de l'armée américaine et nos diplomates et professionnels du renseignement.
L'administration a promis de faire sortir du pays environ 200 Américains encore en Afghanistan. Certains observateurs disent que des milliers d'Afghans qui ont aidé les Américains pendant la guerre craignent les représailles des talibans. Mark Jacobson, ancien représentant adjoint civil de l'OTAN en Afghanistan.
Il y a eu des politiques incohérentes sur la priorité à l'entrée de l'aéroport. Le département d'État dit aux organisations humanitaires et aux individus d'amener des bus ou des groupes de personnes. Et la minute suivante, ce sont uniquement des détenteurs de passeports américains ou de cartes vertes.
Interrogé sur ce point par la Voix de l'Amérique, l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Jen Psaki, décrit l'opération d'évacuation comme une grande réussite.
Je n'ai aucune confirmation de ce que vous décrivez. Ce que je peux dire, c'est qu'environ 117 000 personnes, dont beaucoup d'Afghans, des gens qui ne sont pas citoyens américains, ont été évacués. C'est plus de personnes que jamais dans n'importe quel pont aérien de l'histoire des États-Unis.
Après la fin de la guerre en Afghanistan, Joe Biden a assuré qu'il aborderait la politique étrangère à travers le prisme des intérêts américains, y compris la meilleure façon de continuer à assurer la sécurité des États-Unis.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Dion à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.